Sidanu. Hein. On va attaquer par quelque chose qui attaque l'oxyde et pas le silicium, un fluorure de quelque chose, un truc à base d'acide fluorhydrique, et ça fait un trou dans l'oxyde, et donc là, le silicium se trouve à nu. Voilà, on envoie un flux d'ion phosphore qui va créer une zone de type N là-dedans. Voilà. Et plus on l'envoie fort, plus les ions vont profondément et donc plus on a une couche épaisse transformée. Donc on a réussi à faire une zone transformée qui contient du silicium N et là du silicium P. Hein. Voilà, donc ça c'est la fabrication du caisson. Ensuite, on va fabriquer donc ce qu'on appelle l'oxyde de champ, on va voir ce que c'est. Ça va être un oxyde pour séparer les éléments. Donc, on met d'abord une couche de nitrure de silicium. Le nitrure de silicium a des propriétés particulières qui amènent à l'utiliser ici, mais autrement, le principe est le même. C'est une couche, disons, ce serait la même chose si c'était une couche d'oxyde. On remet une couche de résine, un masque différent qui représente ça. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va être là la zone où on va faire le transistor P, là la zone où on fait le transistor N, là une zone de contact où on va se connecter au substrat, et là une zone de contact où on va se connecter au caisson. Hein? Voilà. Et donc tout ça, on va, en dehors de tout ça, on ne veut pas voir le silicium. Donc on va graver, oui c'est ça, on va graver le nitrure hein, en dehors de ça. Voilà, donc je grave le nitrure en dehors de ça. Et je vais maintenant faire pousser, alors c'est pour ça que c'était du nitrure, c'est que maintenant je vais faire pousser de la silice en oxydant tout ce qui est à côté. Alors, je fais pousser ce silice, vous voyez, un four, il suffit tout simplement de mettre de la vapeur d'eau, et c'est comme si on faisait pousser de la rouille. Hein. Donc, on va faire un oxyde ici très épais, qu'on appelle le FOX, File Oxide. Hein. C'est-à-dire, c'est un oxyde de champ, un oxyde de zone inutilisée, si vous voulez, de zones qui ne sont pas des zones actives. Et il est suffisamment épais pour qu'une connexion qui se passe au-dessus ne fasse pas un transistor en dessous. C'est-à-dire, ça fait un transistor, mais un transistor dont l'épaisseur d'oxyde est telle qu'il n'y a pas d'effet transistor. Parce qu'autrement, on aurait des transistors partout. Donc, pour ça, on met un oxyde suffisamment épais pour se protéger, qu'il ne fasse pas d'effet transistor. S'il y a quelque chose qui ne vous paraît pas clair, vous le dites, je peux... Là, je suppose que vous comprenez, donc j'avance, quoi. Après, j'enlève le nitrure et je fais pousser de l'oxyde mince. Le fameux oxyde mince qu'il va y avoir sous les grilles. Hein. Et cet oxyde doit être extrêmement mince. Pour vous donner une idée, il le fait quelques angstroms. Hein. C'est-à-dire, la couche d'oxyde, c'est quelques atomes, de l'ordre de 3 à 5 atomes. Donc c'est assez fin. Hein. Et au point qu'il n'arrive plus à diminuer cette épaisseur, parce qu'il faut au moins qu'il y ait quand même quelques atomes, sinon ça va fuir, on cherche des matériaux qui ont un plus grand coefficient diélectrique pour pouvoir maintenir une certaine épaisseur. L'isolant de la capacité reste épais, mais son pouvoir électrostatique a augmenté. Hein. Donc, on met des matériaux à fort coefficient. Donc, voilà, on fait l'oxyde mince. Donc, cet oxyde mince est particulièrement soigné. Il est fait au détriment de la silice du silicium qui est en dessous. Et donc, il est très, très mince. Là-dessus, on va déposer le polysilicium partout, hein, on le dépose, et on va le graver là où on veut qu'il y ait la grille. Donc on va mettre la grille sur ce transistor-là et sur ce transistor, et les deux sont reliés puisque c'est un inverseur CMOS. Hein. Donc voilà le masque et ça vu de dessus. Et on grave. Hein. On grave quoi ? La couche de polysilicium. Donc voilà, il reste le polysilicium avec sa résine et sur l'oxyde mince, là. Maintenant, on va graver l'oxyde mince. Et donc, on enlève l'oxyde mince. Il ne reste plus que le polysilicium sur son oxyde mince, hein, là, à l'endroit. Donc, on a fabriqué la partie la plus critique des transistors. Maintenant, on va fabriquer les zones actives, c'est-à-dire les sources et les drains. Alors, il faut fabriquer les sources et les drains des transistors P et N. Ils ne sont pas de même nature, donc ça va faire deux opérations. Donc, on va repercer dans la zone qu'on appelle la zone active, ici, hein, pour enlever le matériau. On met une grosse couche de résine qui recouvre tout. Et on va graver là. En fait, les dimensions verticales sont très exagérées sur ce dessin. Hein. Mais voilà, donc j'ai gravé, et là, j'ai gravé pour faire les zones P+, c'est-à-dire les zones des transistors P. Hein. Donc ça, c'est fait par implantation ionique aussi. Voilà les zones là. Et ici, on met une zone P, de même nature que celle-là, pour faire contact avec le substrat. Pourquoi on fait contact avec le substrat ? C'est pour définir la polarisation du substrat. Sinon, le transistor flotte. Hein. On fait des transistors flottants, mais dans d'autres technologies, en particulier, quand il n'y a pas de substrat, qu'on fait ça sur un isolant, un substrat isolant. Mais c'est des technologies un peu particulières. Donc, on fait ça. Donc, on a fait les transistors P et le contact P. On fait la même chose pour le N, donc on fait le transistor N, le contact N, voilà. Donc là, on a fini les transistors, hein, et voilà ce que ça donne en vision microélectronique. Hein. Donc vous voyez la zone, donc là, on est au microscope électronique, on voit la zone de la source du drain, hein, là pareil, l'autre, on voit la grille, vous voyez que la grille ne déborde pas sur la source et le drain pour ne pas faire de capamillaire, hein. Donc il y a même un petit espace, et en fait, voilà le poly, et il est tartiné par-dessus, parce que c'est vraiment tartiné, par quelque chose à base de tungstène, pour le rendre plus conducteur. Hein. Voilà. Et le canal, je l'ai dessiné en rouge, c'est une fine couche qui se produit là. Vous voyez ces petites granularités-là, pourraient être les atomes. Oui. C'est assez épais. Je n'ai pas les dimensions d'épaisseur. Je les aurais pour le métal. On va voir tout à l'heure le circuit avec ces métaux. Là, je ne sais même pas la technologie qui a été utilisée, mais il y a, voilà, la dimension est de 50. Donc 50 quelque chose. Hein. Ah, s'il y a, ça c'est 600 nanomètres. Hein. Voilà, 600 nanomètres ici. Après, on peut mesurer avec ça, il faut le répartir. Voilà, oui ?
J'ai une petite question ponctuelle qui n'appelle pas les engagements. Et puis, est-ce que tu envisages de faire une pause d'une dizaine de minutes avant de reprendre ou de faire tout ça dans la foulée ?
Je ne sais pas, moi.
Ma question, elle est une question vraiment très basique. C'est pourquoi est-ce qu'on ne fait pas des puces plus grandes ?
Parce que les puces plus grandes... Alors, on a essayé de faire des circuits au niveau du wafer, c'est-à-dire de garder tout le wafer. Ça, c'est essayé, mais le problème, c'est que plus c'est grand, plus il y a des risques de défaut. Et donc, plus on perdrait... on a un risque de perdre le circuit, parce qu'un défaut, et le circuit est foutu. Hein. Les circuits comportent... Alors, des fois, on met de la redondance. Mais quand on met de la redondance, après, faut gérer, dire, faut des mécanismes qui utilisent cette redondance, donc ça devient un peu compliqué. Et finalement, on préfère jouer sur le rendement, avoir un bon rendement pour avoir, puis prendre les circuits bons. Quoi. Hein? Et les rendements.
Plus que la crainte que le wafer ne se casse.
Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est plutôt le problème de rendement. Hein? Et puis après, quand le circuit est plus grand, on va tomber sur des problèmes de synchronisation que je n'ai pas évoqués là, que j'étudie par ailleurs, qui posent des problèmes. Vous allez voir également un pourquoi un peu plus loin, c'est que quand on compare le circuit tel qu'il est à de la géographie, les circuits actuels sont à peu près de la taille d'un continent. Je veux bien, mais un continent, vous voyez, il y a des problèmes de distance qui commencent à apparaître. Hein. Quand vous allez du nord de l'Écosse jusqu'au sud de l'Italie, ça ne se fait pas immédiatement. Quoi, hein. Donc il y a des problèmes de distance qui commencent à apparaître et qui provoquent des problèmes de synchronisation. Et comme on veut en plus que ça tourne vite, il y a des problèmes là. Donc il y a des grosses études qui sont faites là-dessus. On pourra en parler aussi, mais là, je n'avais pas prévu de parler de ça, donc là, tellement. Déjà, j'ai quand même 97 diapos. Enfin, là, on a déjà bien avancé quand même. Hein, on est à 61, donc c'est pas. On a fait les deux tiers. Hein. Voilà. Alors, après, on va commencer à faire la connexion. Parce que jusqu'à maintenant, on a fait les transistors et des petites connexions locales par le poly. Hein. Et autrement, maintenant on va mettre on va commencer à faire l'interconnexion du circuit. Donc on commence par tout recouvrir avec de la silice, donc du SiO2, déposé ce coup-là. C'est-à-dire, c'est plus du SiO2 pris sur le circuit, c'est du SiO2 déposé avec un gaz, je crois qu'on appelle le silane, qui provoque un dépôt. Donc ce n'est pas une très bonne silice, mais on s'en fout à ce niveau-là. Et ensuite, on la surface, parce qu'évidemment, si on la laissait faire, ça serait tout bosselé. Donc elle est surfacée par meulage, hein, c'est-à-dire comme le circuit est poli avec un abrasif pour être plat. Hein. Et donc, on remet de la résine, une fois que c'est... Hein, et on va commencer à percer les trous pour faire les contacts. Donc voilà, on a percé les trous, toujours problème de photolithographie. Hein. Donc on va déposer maintenant un métal par-dessus. Donc pendant longtemps, le métal, ça a été de l'aluminium. Maintenant, c'est plutôt de l'or. Hein. Ça a posé beaucoup de problèmes. Il y a eu passage au cuivre, parce que ces métaux peuvent être des polluants pour le reste du circuit. Donc, et ce dépôt va se déposer dans les trous. Hein. Alors, voilà. Et ensuite, on le grave pour commencer à faire le circuit. Donc là, vous voyez, on peut dire qu'on va relier les deux drains. Vous voyez, on a fait deux contacts ici sur ce qu'on a devenu les drains. On les a reliés et on a fait une partie là qui va... faire vraisemblablement la sortie. Là, je relie la source au puits qui polarise le substrat. Là, je relie la source du transistor P au puits qui polarise le caisson. Hein. Et voilà, vous l'avez en coupe ici. Hein. Et ensuite, alors donc ça, c'est la gravure, puisque tout était recouvert de métal, on a gravé. Et on recommence. On recommence en remettant... Alors, voilà ce que ça donne en microscopie. Vous voyez, ça, c'est les contacts. Vous imaginez, hein, c'est comme si je faisais contact sur un circuit imprimé avec des baramines. Hein. Donc, c'est des... Et voilà le transistor. On retrouve la grille du transistor, la source et le drain, ou le drain et la source, qui sont ici. Et vous voyez l'épaisseur de la couche de métal qu'on vient de mettre ici par rapport à sa dimension. C'est presque carré pour ça. Vous voyez, ça c'est un micron. Donc c'était une technologie qui était aux alentours de 0,8 microns, quelque chose comme ça. Vous voyez, là la dimension. Donc, 0,5 microns à peu près. Et vous voyez, quand c'est recouvert, c'était tordu à l'époque parce qu'on ne planéarisait pas. La planéarisation est venue après. Alors, après, on recommence. Donc, on redépose de la silice, on replanéarise. Des fois, c'est d'un matériau organique, mais ça se fait maintenant avec de la silice. On refait des trous. Donc là, on va faire des trous ici et là pour les alimentations. Et on met un deuxième niveau de métal. Et vous voyez là, comment ça se passe? On a notre petit transistor qui est ici, et on a un premier niveau. Donc ça devient presque, ça donne un peu l'impression d'un truc mégalithique. Hein. C'est très grossier par rapport au transistor lui-même. Vous voyez. Et on va jusqu'à 6-7 couches de métal, maintenant 8 couches de métal dans les circuits les plus modernes. Donc en 22 nanos, il y a 8 couches. Mais les dimensions géométriques de ces couches de métal sont moins strictes que celles qui ont servi à faire le transistor. Donc la largeur des pistes. Alors on en arrive maintenant à ce que les pistes de métal soient plus épaisses que larges. Et donc les capacités parasites sont plus des capacités parce qu'ils sont par les bords que la capacité de ce petit morceau par rapport au dessous ou au-dessus. Hein? Donc on arrive à avoir des capacités dues à la périphérie parce que c'est presque des murs ces machins. Parce qu'il faut qu'ils aient une surface suffisante pour conduire le courant et on a déjà des densités de courant qui sont énormes, qui, si on ne prend pas de précautions, et on prend des précautions pour ça, provoque de l'électrolyse à l'état solide. C'est-à-dire, on appelle ça de l'électromigration. C'est-à-dire, l'intensité est tellement forte qu'elle fait migrer les atomes de métal. Et évidemment, quand il y a un petit défaut, l'intensité est plus forte à l'endroit du défaut, et l'électromigration plus forte, et ça finit par se couper. Hein? Donc c'est vraiment, il faut faire très attention, on est à la limite de la quantité de courant de ce qui peut passer. Voilà, et après le circuit est mis dans un boîtier, connecté sur le côté, et ça c'est le boîtier. Alors, je vais vous montrer comment maintenant on dessine les masques. Alors voilà, un dessin, bon dessin d'inverseur, parce que l'autre là qu'on a vu n'était pas chouette. Comment on fait maintenant? Eh bien maintenant, vous voyez, on croise les couches. Hein. Alors ça, c'est du dessin manuel, ne pas confondre avec le dessin automatique dont on verra après. Mais de toute façon, dans les deux cas, les dessins automatiques utilisent des cellules qui sont, elles, dessinées manuellement. Et vous voyez, là, on a le caisson, hein, qui est ici. Il n'y a pas la prise de caisson, là, parce que elle peut être dans d'autres cellules. Là, on a le transistor N. Là, on a le transistor P. Vous voyez qu'il est plus large, puisque la mobilité P est plus large. On a ici le poly qui est croisé et excite dans un même élan le transistor N et le transistor P. Et ce croisement, ce fait de mettre les transistors comme ça et de relier ça d'un jet de poly, c'est ça qui a été la trouvaille, mais ça n'a pas été. Il a fallu 5 ans pour trouver ça. Hein. Quand vous regardez, moi je me souviens avoir dépiauté des circuits dans les années fin des années 70, début des années 80, les gens tiraient plein de fils pour relier les transistors N aux transistors P. C'était indémerdable ce truc. Tandis que là, ça devient extrêmement compact avec cette dimension. Parce que s'ils ne sont pas plus proches, c'est parce qu'il faut une certaine distance entre les transistors et le caisson. Mais vous voyez, cette distance peut être exploitée pour faire passer par exemple des fils ici qui n'ont rien à voir avec la porte, mais qui passe pour relier quelque chose au-dessus à quelque chose en dessous. Hein? Vous voyez, ça c'est la masse qui est reliée à ce qui va devenir la source de ce transistor. Le transistor est ici, donc avec son œuf de mince en dessous. Ça c'est son drain, qui est relié à une fermeture en poly, et parce que la tentation, c'est de fermer ça en métal, mais si vous fermez ça en métal, vous ne pouvez plus passer. Vous fermez ce qu'on appelle la transparence de la porte. Donc, vous perdez de la transparence de la porte. Donc, on cherche à gratter toutes ces dimensions-là, sont des dimensions minimales. Il n'est pas question de larguer un nanomètre. Hein. C'est vraiment au minimum. Tout est calé à la plus grande compaction. Hein. Et toutes ces dimensions-là sont données par un jeu de règles qui est donné avec la technologie et qui vous dit il y a telle distance à respecter. Et là, ça, c'est le transistor P, donc son caisson. Alors, la cellule va jusque-là pour pouvoir être collée avec d'autres cellules. Et à ce moment-là, le caisson va tomber sur d'autres caissons, et en particulier qui, lui, aura les prises de caissons. La prise de substrat, ben, ça sera pareil, certainement, on fera de la même manière. Ça, c'est l'alimentation. Vous voyez, la piste de métal pour l'alimentation est plus large. Et là, c'est la source du transistor P, ça, c'est son drain. Et toutes ces dimensions-là sont des dimensions minimales. Voilà. Et vous voyez qu'on a besoin là que d'une couche de métal. Hein. En général, les couches supérieures sont après des couches pour faire des interconnexions à distance de plus en plus grande. Alors, voilà par exemple un morceau d'un opérateur arithmétique pour un bit, hein, qui est... on vous montre là-dedans un transistor, je vous montre la distance minimale, donc c'est la largeur d'une grille qui est ici. Vous voyez que ça c'est les entrées, vous voyez que les entrées non seulement connectent un transistor P et un transistor N, mais se prolongent pour travailler sur la porte d'après. Vous voyez, ça c'est une porte complexe avec des transistors.